Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Monsieur l'abbé Marais a bien voulu m'inviter en cette fête de l'Immaculée Conception, qui est très chère à la fraternité. Je me permettrai de vous parler particulièrement de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, qui, je pense, vous est chère à vous aussi, car si aujourd'hui vous êtes dans cette belle église, dans cet oratoire, que vous pouvez trouver de nombreuses bénédictions, recevoir de nombreuses grâces de la part du bon Dieu, vous nourrir de la véritable Eucharistie, offrir le véritable sacrifice de la messe, c'est à la fraternité, je pense, que vous le devez. Et par l'intermédiaire des prieurs qui ont précédé M. l'abbé Marais et par M. l'abbé Marais lui-même qui se dévoue avec tant de zèle pour votre sanctification. L'Immaculée Conception, la fête de l'Immaculée Conception est l'occasion pour tous les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X de renouveler leurs engagements. Engagement qu'ils font vis-à-vis de la fraternité et du supérieur général de cette fraternité devant le bon Dieu. Hier, par conséquent, puisque c'était la fête, aujourd'hui c'est la solennité, hier, environ 240 prêtres membres de la fraternité ont renouvelé ces engagements. Et je pense environ 220 séminaristes, presque 500 membres de la fraternité qui, hier, ont renouvelé leurs engagements vis-à-vis de la fraternité. C'est une petite armée, l'armée du Seigneur, l'armée de ceux qui militent pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les âmes, dans les familles, dans les cités, car c'est bien le but de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, faire régner notre Seigneur. Si nous avons pris précisément comme patron Saint-Pie-X, le dernier Saint-Pape, nous faisons aussi nôtre sa devise, Instaurare omnia in Christo. Oui, c'est bien cela que nous désirons, tout restaurer dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et récemment, nous avons fêté le 20e anniversaire de la fondation de la fraternité qui a eu lieu le 1er novembre 1970. J'étais moi-même, ce jour-là, dans le bureau de son Excellence Monseigneur Charrière à Fribourg pour lui demander la reconnaissance de la fraternité. Et j'avoue que j'avais un petit peu d'émotion. Je me demandais si Monseigneur Charrière allait accepter de signer l'érection et l'institution de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Or, quand je me suis présenté, donc le 1er novembre, dans les bureaux de Monseigneur Charrière, immédiatement, Monseigneur Charrière m'a dit « Pas de difficulté, Monseigneur, au contraire, je suis très heureux d'instituer cette fraternité dans mon diocèse et je vais vous signer immédiatement les actes d'érection de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. » Il a fait venir son secrétaire, il a fait taper à la machine le texte qu'il vous désirait pour reconnaître cette fraternité, et je rentrai moi-même stupéfait à la Vignetta. Je rencontrai là mes premiers séminaristes et je leur disais, mes chers amis, la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X est fondée par Monseigneur Charrière. Grâce extraordinaire, car Monseigneur aurait pu faire quelques objections. Non, Monseigneur Charrière a été vraiment le fondateur de notre fraternité, l'évêque de Fribourg, de Lausanne et de Genève, n'est-ce pas? Et je me suis permis de dire à Monseigneur Charrière, Monseigneur, j'espère que cet acte que vous aurez fait, cette signature que vous aurez apposée à la fondation de la Fraternité Saint-Pédis, vous acquerra une belle couronne au ciel. Et je ne pensais pas si bien dire, parce qu'enfin je pense que maintenant, le bon Monseigneur Charrière, qui, je l'espère, jouit de la béatitude au ciel, doit se réjouir de voir l'accroissement de cette fraternité qu'il a fondée juridiquement. Il y a donc 20 ans que la fraternité a été fondée, 19 ans qu'elle a été reconnue par Rome, car après avoir été reconnu par son Excellence Monseigneur Charrière, j'ai souhaité que Rome appose aussi sa signature pour approuver cette fraternité qui n'avait d'autre but que de venir au secours de l'Église, de former de bons prêtres, des prêtres catholiques, de continuer l'œuvre de l'Église, telle que l'Église l'a réalisée au cours de 20 siècles. Et en effet, là aussi, le cardinal Wright, préfet de la Sacrée Congrégation du Clergé, a bien voulu faire une lettre d'approbation des statuts de la fraternité et nous encourager à continuer dans l'œuvre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Il avait en ce temps-là, comme secrétaire, Monseigneur Palazzini, qui est aujourd'hui le cardinal Palazzini, qui a signé, lui également, comme secrétaire, cet acte officiel d'approbation de la fraternité Saint-Pédis à Rome. Il est bon de nous rappeler cela, mes bien chers frères, car évidemment, depuis, hélas, on a voulu nous supprimer, on a voulu nous détruire. Pourquoi ? Pourquoi avoir approuvé cette œuvre qui semblait, et à l'évêque du diocèse, et aux autorités romaines, une œuvre conforme à l'esprit de l'Église et désirable pour le bien de l'Église? Comment se fait-il que quelques années après, nous ayons reçu des lettres, comme je l'ai reçu de Monseigneur Mamy, demandant de fermer immédiatement notre séminaire et que la fraternité était supprimée? Devant cette contradiction évidente et devant les motifs qui étaient invoqués pour supprimer la fraternité, qui n'était autre que de dire la Sainte Messe de toujours, car c'est cela qui a été vraiment le motif principal de la suppression de la fraternité. Vous continuez à dire la messe de toujours, cette messe est supprimée. Cette messe n'existe plus. Vous devez dire la nouvelle messe, la messe du Concile. Et parce que vous ne voulez pas dire la messe du Concile, par conséquent, vous désobéissez au Concile, vous désobéissez au Pape, et par conséquent, nous supprimons la fraternité Saint-Pédis, et je vous demande de renvoyer professeurs et élèves dans les 15 jours. Incroyable. Supprimer cette fraternité qui était donc acceptée par l'évêque du lieu et par Rome, parce que nous continuions la messe qui a été dite pendant des siècles et des siècles. Alors, j'ai fait un recours à Rome, mais ce recours a été rejeté. Le cardinal Huyot a demandé au cardinal Staffa de ne pas accepter le recours que j'avais fait, alors que le cardinal Staffa avait accepté ce recours et était prêt à l'étudier pour voir si vraiment le fait de dire la messe ancienne était une cause suffisante pour supprimer la fraternité. N'ayant pas eu de réponse, le recours étant rejeté, eh bien, j'ai continué, n'est-ce pas? Et c'est alors que me sont venues toutes les peines canoniques, suspenses, n'est-ce pas? Et nous avons continué ainsi. La fraternité s'est développée, grâce à Dieu, avec la bénédiction du bon Dieu. Les séminaires se sont multipliés, les maisons se sont multipliées partout, dans le monde entier. Et maintenant, nous pouvons remercier le bon Dieu, malgré toutes les oppositions, malgré toutes les peines, malgré toutes les persécutions que nous subissons et que nous avons subies, eh bien, la fraternité avance, marche, continue son chemin, se développe. Vous pouvez le constater vous-même. Et vous-même, vous avez été des agents de ce développement ici à Genève. Nous avons été vraiment émerveillés par votre immense générosité pour, à l'occasion de l'achat de cette maison qui devait être l'école, mais qui, à cause des difficultés du gouvernement, n'ont pas pu devenir l'école, qui s'est devenu le presbytère pour permettre à l'école de se développer là où était le presbytère autrefois. Vous avez été une telle générosité que nous avons pu faire l'opération rapidement. Je vous en félicite. Et cette générosité se rencontre, il faut le dire, partout. Les fidèles ont conscience de la nécessité de la tradition, de la nécessité de garder ce que l'Église a toujours fait pour rester catholique, pas pour autre chose, pas pour dire nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons encore acheté ceci, acheté cela. Non, pour rester catholique, pour continuer l'Église catholique, tout simplement, pas autre chose. Vous avez pu aussi assister, certainement beaucoup d'entre vous, sont venus à la consécration de l'église de Delémont, magnifique bâtiment qui a été construit, qui est maintenant vraiment un témoignage de la tradition, là, dans le Jura. Et puis, vous savez bien que le Carmel est en train de se rénover et de grandir aussi, de faire des constructions pour pouvoir recevoir davantage de religieuses. Encore là, une extension de l'œuvre de la fraternité. Et puis, récemment, l'abbé Pfluger, maintenant supérieur du district de Suisse, a acquis cette belle maison de retraite à Ainay, où déjà de nombreuses retraites ont été prêchées pour la sanctification des fidèles. Tout cela manifeste l'extension de la fraternité. Et tout récemment, non seulement en Suisse, mais vous voyez en France également, nous avons appris avec joie que le 21 novembre, fête de la présentation de la Très-Sainte Vierge, eh bien, Lyon avait acquis une grande maison comme prieuré et qui pourra servir en même temps de chapelle parce que nous étions chassés de la chapelle de Lyon à la fin décembre. Il fallait trouver avant la fin décembre quelque chose pour remplacer la chapelle. Et vous savez que dans ces grandes villes, c'est comme ici à Genève, les immeubles sont très très chers et très difficiles à acquérir, c'est toujours une grande complication. Aussi, quand nous avons appris que sous la bénédiction de la Très-Sainte Vierge, à la fête de la présentation, nous avons signé les actes pour l'acquisition d'une grande maison qui pourra servir à la fois de chapelle et de prieuré, nous avons remercié le bon Dieu. Et que de fait comme ça, nous pourrions raconter, nous pourrions dire, oui, vraiment, le bon Dieu bénit la fraternité, c'est certain. Nous ne pouvons pas le nier. Alors se pose toujours ce problème qui, évidemment, nous est reproché constamment, probablement par une partie de vos parents, par bien un grand nombre de vos amis qui vous disent « Oui, mais vous ne voyez pas, vous êtes en dehors de l'Église. » Vous êtes une église parallèle. Vous n'êtes pas la véritable église. Eh bien, mes chers amis, il est vrai que nous marchons quasi parallèlement à l'Église officielle. Mais si nous scrutons les faits et les paroles de ceux qui font partie de cette Église officielle, nous sommes obligés de constater que beaucoup de ces membres de l'Église officielle et des plus importants ne sont plus catholiques. Ils ne sont plus catholiques. Ils n'ont plus l'esprit catholique. Alors il faut se demander qui est catholique ? Ceux qui gardent la tradition, ceux qui gardent les principes de l'Église catholique, ou bien ceux qui les détruisent. Les catéchismes qui sont mis dans les mains des enfants un peu partout ne sont plus catholiques. Et je dirais que l'esprit de Vatican II a été un esprit du monde qui est entré à l'intérieur de l'Église. Quel est cet esprit du monde? Cet esprit qui est partout, partout maintenant. Professé, je dirais, officiellement par tous les gouvernements. Sur quelle base les gouvernements jugent-ils maintenant les choses et les hommes et les événements? Sur la base des droits de l'homme. Ça, ce n'est pas catholique. Et cette base des droits de l'homme est un renversement, vous voyez, un renversement radical, fondamental de la doctrine catholique. Tandis que professe que l'homme est indépendant, que l'homme n'est libre, que l'homme n'est libre de faire ce qu'il veut, avec tous ses droits de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, pourvu que ça ne gêne pas l'ordre public. Cela est faux, c'est un principe radicalement faux et d'un orgueil invraisemblable. Nous laissons dépendants. C'est ça la doctrine catholique. La doctrine catholique nous apprend que nous naissons dépendants. Dépendants de qui? Mais dépendants de Dieu. Dépendants de Dieu. Nous ne serions pas ici si Dieu ne nous soutenait pas dans l'existence, si le bon Dieu ne nous donnait pas l'air que nous avons pour respirer et le sang qui coule dans nos veines et notre cœur qui bat et notre âme qui anime notre corps. Si le bon Dieu ne nous donnait pas cela, mais nous n'existerions pas. Et il nous le donne à tous les instants. Par conséquent, nous dépendons à tout instant, à toute seconde, nous dépendons de Dieu. Nous naissons dépendants. Et puis le bon Dieu nous a fait naître dans une société, dans une famille. Nous sommes dépendants de nos parents. Nous naissons par conséquent dépendants de nos parents. Cette magnifique autorité que le bon Dieu nous a donnée, un père et une mère, imaginez, qui veillent sur nous, qui ont veillé sur, sur notre enfance, qui ont veillé sur notre adolescence, qui nous ont aimés, qui nous ont conduits, qui nous ont élevés avec un soin admirable, qui nous ont appris les principes de l'Église catholique, qui nous ont conduits à la première communion, au sacrement, que sais-je. Quelle merveille que la famille chrétienne. Mais nous naissons dépendants de nos parents, et nous naissons dépendants des autorités, autorités de l'Église, autorités de l'État, bien sûr, ce sont des sociétés qui ont été fondées par Dieu pour nous aider à arriver au ciel. Alors, ce principe de l'indépendance de l'homme, des droits de l'homme, l'homme pouvant se tourner vers Dieu en disant « c'est mon droit de penser ce que je veux », ce n'est pas vrai. « J'ai le droit de faire ce que je veux », ce n'est pas vrai. « J'ai le droit d'avoir la religion que je veux », ce n'est pas vrai. Et voilà ce que professent aujourd'hui tous les États socialistes, qui sont antichrétiens, qui sont contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont en définitive contre Dieu. Eh bien, les autorités de l'Église ont suivi maintenant les États socialistes et professent aussi les droits de l'homme partout, la liberté religieuse, la liberté de la religion. Mais il n'y a pas de liberté de religion, Ça n'existe pas. Nous pouvons tolérer l'erreur, tolérer les fausses religions, mais dire que nous sommes libres de choisir entre une religion et une autre, c'est faux. Parce qu'il n'y a qu'une seule religion vraie, qui a été fondée par Dieu lui-même. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce n'est pas l'Église. C'est Dieu qui a fondé cette religion, qui est descendu sur la terre, qui a pris un corps comme le nôtre, pour fonder cette religion chrétienne. Nous devons tous être chrétiens et personne qui n'est chrétien ne pourra rentrer au ciel. Personne, personne. Il faut être chrétien pour rentrer au ciel, c'est-à-dire du Christ, c'est-à-dire attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, vivant de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par le baptême, par les sacrements. Et là, mon Dieu, on a décidé comme ça. Ça ne dépend pas de nous. Là encore, nous sommes dépendants. C'est ça qu'a toujours enseigné l'Église. Et c'est pourquoi l'Église a envoyé ses missionnaires partout pour convertir à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est l'Église qui est vraiment catholique? Ce n'est plus leur Église. Ce n'est plus leur Église. Ils n'ont plus l'esprit catholique. Je ne crois pas exagérer en disant une chose comme celle-là. Je vous assure. Les faits sont là pour le prouver. Les actes, comme Assise, par exemple, la réunion d'Assise, prouvent que dans l'Église, maintenant, toutes les religions sont mises sur le même pied. Ce n'est pas possible. C'est contraire à la loi de Dieu. C'est contraire à la volonté de Dieu. Alors nous devons rester catholiques. Pourquoi ? Sommes-nous rejetés, parce que ce n'est pas nous qui désirons nous séparer de les autorités officielles. Nous souhaitons être en très bon rapport avec toutes les autorités officielles. Mais ils ne veulent plus de nous parce que nous gardons la tradition. Cette tradition, c'est fini. Avec le Concile Vatican II, il y a eu un grand changement dans l'Église. Vous devez suivre ce changement. Vous devrez abandonner la tradition d'autrefois et prendre les changements que le Concile Vatican II a voulu faire. Nous leur disons, mais regardez les résultats. Regardez les résultats. Tout se démolit dans l'Église. Tout part, tout s'en va. Tout est en ruine. La morale, la foi, les mœurs, les vocations, les couvents, tout est dans la ruine. Et vous voudriez que nous vous suivions là, et nous voudriez que vous nous donniez un coup de main, que nous vous donnions un coup de main pour démolir l'Église aussi. Non. Nous construisons l'Église, comme l'Église l'a toujours voulu, avec les mêmes principes, avec les principes de l'Église, avec les sacrements de l'Église, avec la foi de l'Église. Et nous voyons les résultats. Les résultats, c'est que nous nous développons. Et si nous étions reconnus, aidés, encouragés, combien nos résultats seraient encore beaucoup plus importants. Mais malgré toutes les persécutions que nous subissons, malgré toutes les incompréhensions que nous rencontrons partout, eh bien, le bon Dieu bénit notre... Parce que le bon Dieu veut que l'Église catholique subsiste. Il ne veut pas, il l'a promis que l'Église catholique durerait jusqu'à la fin des temps. Et c'est vous, mes bien chers frères, qui êtes l'Église catholique et qui continuez l'Église catholique avec ses prêtres et avec les évêques. C'est pourquoi j'ai cru en conscience devoir faire ces évêques pour garder l'Église catholique. Parce qu'on ne peut pas être chrétien si on n'a pas... On ne peut pas être catholique. Les fidèles ne peuvent pas être catholiques s'ils n'ont pas de prêtres catholiques. Et les prêtres catholiques ne peuvent pas être catholiques s'ils n'ont pas d'évêques catholiques. C'est ce que j'ai demandé à Rome. Ils m'ont refusé de me donner ces évêques catholiques. Je les ai faits moi-même. Je devais les faire en conscience, je devais les faire moi-même. Pour continuer l'Église catholique, pour vous donner des prêtres catholiques. Je ne veux pas vous donner des prêtres qui vont détruire votre foi, qui vont gaspiller les sacrements, qui vont vous donner des sacrements dont vous ne saurez plus s'ils sont valides, pas valides, s'ils donnent la grâce, s'ils ne donnent pas la grâce. On ne peut pas vivre comme ça. Un chrétien ne peut pas vivre comme ça. Il faut être sûr de recevoir les sacrements, la grâce du sacrement. Et c'est ce que nous donnent les prêtres, sans aucun doute, puisqu'ils continuent la tradition. Demandons cette journée, mes bien chers frères, à la Très Sainte Vierge Marie, qui elle a été dans cet esprit, rien que la regarder, penser à ce qu'elle pouvait être, lorsqu'elle a prononcé son fiat, avec quelle modestie, dans le secret de la salle où elle se trouvait, de sa cellule, où elle a reçu l'ange, elle a dit son fiat. Qu'est-ce que ça voulait dire, son fiat ? Je suis dépendant de Dieu. Que la volonté du bon Dieu soit faite. Je veux dépendre du bon Dieu. Le bon Dieu me veut me faire sa mère. Fiat, que je devienne sa mère. Mais elle l'a fait avec une telle humilité. Elle le dit elle-même. Qua respexit humilitatem meam, nous le chantons dans son magnificat. Il a regardé mon humilité. Voilà l'attitude, de la vraie chrétienne. L'humilité, la modestie, la dépendance, l'obéissance. Voilà les vertus chrétiennes. Et c'est ce que nous prêchons, et c'est ce que nous défendons, et ce que nous essayons, nous nous efforçons d'être, en espérant qu'un jour, eh bien, le bon Dieu donnera la grâce aux autorités romaines de comprendre ces choses et de se servir de nous lorsque nous serons à leur disposition, lorsqu'ils retrouveront ces principes catholiques. Demandons encore à la Vierge Marie d'être notre protectrice, d'être notre mère, d'être la mère de nos chers prêtres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis et bien chers frères, je vous inviterai à relire avec moi l'oraison de cette belle fête de Pâques, dans laquelle il est dit: ô Dieu qui, en ce jour, par votre Fils unique, nous avez rouvert les portes du ciel. Dieu qui, par son Fils unique, nous a aujourd'hui rouvert les portes du ciel. Est-ce que nous avons suffisamment dans nos pensées, dans nos préoccupations, la vision du ciel? S'il est un jour où il est bon et où il est aisé, en quelque sorte, de monter jusque dans ces régions qui nous attendent, ces régions qui sont faites pour nous, tous les jours, nous avons parmi nos amis, nos connaissances, des personnes qui franchissent la limite de ce monde temporel pour rentrer dans ce monde éternel. S'il est un jour où nous avons besoin de méditer un peu sur cette bienheureuse éternité, c'est bien en cette fête de Pâques où Jésus ressuscitant nous manifeste même corporellement, extérieurement, la beauté, la grandeur, la sublimité, la splendeur de l'éternité. En effet, en ce jour, Jésus montant au ciel avec son âme resplendissante de lumière, et communiquant à son corps la splendeur de l'éternité, il entraîne avec lui tous ceux qui, depuis Adam et Ève, jusqu'au bon larron, ont été des justes. Jusqu'alors, ils attendaient le sacrifice de notre Seigneur. Ils attendaient que notre Seigneur ouvre les portes du ciel. Le ciel n'était pas ouvert. Hélas, par la désobéissance de nos premiers parents, le ciel était fermé. Fermé pour toute l'humanité. Il a fallu la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu lui-même, pour rouvrir les portes du ciel. Et alors, c'est juste, on rejoint notre Seigneur dans cette bienheureuse éternité. Mais notre Seigneur nous a avertis, tout au cours de son enseignement, pendant ses 3 années de vie publique, il n'a pas manqué de nous enseigner qu'il n'y avait pas que des justes. Hélas, hélas. Parmi toute cette humanité qui a vécu depuis Adam et Ève jusqu'au bon larron, jusqu'à la résurrection de notre Seigneur, que d'âmes se sont opposées à la loi de Dieu, que d'âmes n'ont pas voulu adhérer aux vérités que le bon Dieu a mises dans nos esprits, dans nos cœurs, devant toute cette création qui nous entoure. Il était normal que nous nous élevions vers le Créateur, vers celui qui a fait toutes choses, vers celui qui nous a fait. Mais non, hélas, les hommes se sont attachés aux biens de ce monde, aux biens passagers, méprisant les biens éternels. Alors, oui, ils se sont séparés de Dieu, et parmi même le peuple élu en Israël. Que d'opposition à la venue du Messie. Cette opposition, notre Seigneur lui-même l'a subie, puisque ce sont des membres du peuple élu, du peuple qui devait aller dans son ensemble, dans la bienheureuse éternité. Ce sont ces membres qui l'ont crucifié, qui se sont opposés à lui, d'une manière déterminée, violente, refusant l'annonce du Messie, refusant les preuves que notre Seigneur avait données de sa divinité. C'est le grand prêtre déchirant ses vêtements et disant « Qu'avons-nous besoin de témoignage ? Il vient de blasphémer. » Blasphémer comment ? Blasphémer en disant qu'il était Dieu. Blasphémer en disant qu'il était le Messie. Ils auraient dû tous se prosterner, s'agenouiller devant notre Seigneur Jésus-Christ et dire « Vous êtes le Messie. C'est vous la voie, c'est vous qui ouvrez les portes du ciel. Nous voulons vous suivre pour entrer dans le ciel avec vous. » C'est vous le promis, celui qui a été promis à Israël et à toutes les nations. Mais non, ils se sont opposés à lui, radicalement. Et même en cette journée de sa résurrection, alors que s'il y avait un acte qui prouvait la divinité de notre Seigneur, c'était bien sa résurrection, ils auraient pu se convertir à ce moment-là, au moins, avoir la simplicité, l'humilité de dire « Nous nous sommes trompés, nous avons fait un déicide, nous devons prier le Seigneur de nous pardonner ce péché, nous reconnaissons que son ascension, sa résurrection, nous manifeste évidemment qu'il était Dieu. » Mais non seulement cela, ils ont payé les témoins de la résurrection pour dire que pendant qu'il dormait, les gardes, les apôtres étaient venus enlever le corps de notre Seigneur. Mentant et effrontément, sachant par conséquent que notre Seigneur était ressuscité, car les gardes sont venus leur dire, pour qu'ils aient payé les gardes, pour qu'ils mentent, il fallait bien que les gardes leur aient dit, le Seigneur est ressuscité. Nous l'avons vu dans sa splendeur, il est monté, il est parti, il est au ciel. Alors ils ont répandu ce bruit que les apôtres étaient venus le chercher pendant qu'il dormait. Et saint Augustin nous dit, avec une certaine malice, un certain sourire, dans les leçons que nous avons lues à l'occasion des matines de séjour, mais comment ont-ils pu savoir que les disciples sont venus chercher le corps de notre Seigneur puisqu'il dormait? Et en effet, mais la malice des hommes est telle, voyez-vous, que même les arguments les plus éclatants, même les arguments les plus convaincants, eh bien, sont refusés. Et alors, nous devons nous demander maintenant, depuis que notre Seigneur est ressuscité, qu'a fait l'humanité? Est-ce que tous les hommes se sont regroupés autour de notre Seigneur pour l'adorer, le remercier, lui demander ses grâces, se convertir à lui? Hélas, mes bien chers frères, vous êtes témoins vous-même. La division continue dans l'humanité. Et si cette division n'était que temporelle, si nous disions, oui, bien, nous savons bien qu'au cours de cette vie terrestre, beaucoup d'hommes, malheureusement, s'éloignent de notre Seigneur, s'éloignent de sa loi, mais au moins à la mort, ils retrouvent la lumière et ils se rendent compte de leurs erreurs, ils demandent pardon à Dieu et ils rentrent au ciel. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Et notre Seigneur nous en est témoin. Il l'a dit et répété, il y a au ciel un enfer. Nous ne pouvons pas le nier, ce serait nier ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a affirmé d'une façon solennelle et maintes fois. Alors bien sûr, ceux qui sont pétris des idées modernes, disent, oui, il y a un enfer, mais il n'y a personne en enfer. Oui, mais la miséricorde de mon Dieu fera en sorte que ceux qui sont en enfer seront très peu nombreux. Peut-être un jour même ils se convertiront, même le diable se convertira, et tout le monde sera réuni dans l'éternité bienheureuse. De l'imagination et des mensonges qui sont néfastes, parce que précisément la crainte de l'enfer garde les hommes dans l'observance des commandements de Dieu. Car c'est cela, voyez-vous, qui est essentiel. Qu'est-ce qui a permis à notre Seigneur de rouvrir les portes du ciel? Portes du ciel qui étaient fermées. Fermé pourquoi? Par la désobéissance de nos premiers parents. Nos premiers parents ont désobéi ouvertement à Dieu et ils ont fermé les portes du ciel. Notre Seigneur a rouvert les portes du ciel par son obéissance. Obedience usquam mortem, mortem autem crucis. Obedience, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et toute sa vie a été un acte d'obéissance, de soumission à la volonté du bon Dieu. Dans la première antienne des matines de ce matin, de Pâques, après une belle antienne, il dit « Ego sum qui sum »« Je suis celui qui est ». Dieu affirme sa toute-puissance. Tous les êtres lui doivent d'être, d'exister. Tous les êtres qui existent lui doivent d'être, parce qu'il est la source de l'être. Je suis celui qui est, qui donne l'être à toutes les créatures. Concilium meum non est cum impiis. Je ne suis pas avec les impies, avec ceux qui renient Dieu, avec ceux qui me renient. Mais ma volonté, et dans l'observance de la loi. Dans l'obéissance à la loi se trouve ma volonté. Voyez, quelques paroles brèves, mais combien éclairantes. Tout est là. Dieu est Dieu. Et nous ne changerons pas Dieu. Dieu nous a créés pour être obéissants à sa loi. Il nous a donné une loi, une manière d'utiliser les biens qu'il nous a donnés, notre intelligence, notre volonté, notre cœur, notre corps. Tout est réglé par la loi du bon Dieu. C'est normal, pour arriver au but qui doit être le nôtre, l'éternité bienheureuse. Donc c'est dans l'obéissance à cette loi, à cette volonté du bon Dieu, n'est-ce pas, telle que la Sainte Vierge l'a fait, quel beau modèle que la très Sainte Vierge. Fiat, fiat secundum verbum tuum, qu'il soit fait selon votre parole. C'est toute la vie de la très Sainte Vierge. Cette obéissance à la volonté du bon Dieu. Et c'est cela, l'esprit catholique. L'esprit catholique est profondément un esprit d'obéissance. Une obéissance radicale, totale, à la loi du bon Dieu. Le catholique répète tous les jours, maintes fois, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et non pas que ma volonté soit faite, mais que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Conséquent, c'est dans cet esprit-là que nous devons vivre pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ et arriver aussi aux portes du ciel qui nous seront ouvertes. Et c'est précisément ce pourquoi, mes bien chers frères, nous avons des difficultés avec Rome. Pourquoi revenir sur ce sujet, me direz-vous, c'est un sujet trop triste. Mais non, il faut être dans la vérité. Il faut savoir ce que nous faisons. Et nous savons et nous espérons que nous le faisons en toute conscience devant Dieu lui-même et pour obéir à Dieu, pour demeurer dans l'obéissance, précisément. Parce que l'esprit nouveau qui a soufflé dans la Sainte Église est un esprit de désobéissance, voyez-vous. Et c'est cela, c'est pour ça, c'est à cela que nous opposons. Nous sommes contre la désobéissance, parce que la désobéissance, c'est ce qui a perdu les hommes. C'est ça qui nous a fermé les portes du ciel. Or, tout l'esprit du Concile est un esprit qui porte à la désobéissance. Pourquoi ? Parce qu'on exalte la conscience de l'homme. L'homme a sa conscience, et c'est sa conscience qui doit le régir. Mais pas du tout. Le bon Dieu a donné une conscience aux hommes pour connaître la loi et obéir à la loi, et non pas pour faire ce qu'il veut, et non pas se faire sa loi lui-même. Bon, maintenant on exalte la conscience, la responsabilité. Les hommes sont responsables. Alors, étant donné qu'ils sont responsables, ils font ce qu'ils veulent. Ils disent, ah, j'ai ma responsabilité, j'ai ma conscience, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Personne à avoir dans ma conscience. Dieu voit votre conscience. Dieu vous a donné la loi. Vous n'avez pas le droit de vous opposer à la loi de Dieu. Vous la connaissez. On exalte l'homme. L'homme devient le centre du monde. Comme si ce n'était pas Dieu qui était le centre de toute chose et vers lequel nous devons aller. Alors on exalte les droits de l'homme, la théologie, la libération, la liberté, 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 la libération, l'indépendance. Toutes ces choses sont mauvaises, foncièrement mauvaises, elles sont diaboliques. Ça c'est l'écho des paroles de Satan à Ève et à Adam, qui ont perdu Ève et nos premiers parents. Alors des paroles comme celle-là jettent dans le péché des millions de chrétiens, de catholiques. Oui, ce mauvais esprit qui souffle d'indépendance du règne de la conscience personnelle, de la liberté personnelle, de la libération, fait tomber dans le péché des millions de catholiques. Aussi, nous ne voulons pas suivre ce mouvement, nous ne voulons pas suivre cet esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Un esprit de désobéissance, un esprit d'indépendance. Nous sommes dépendants totalement de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Il nous a donné une loi, nous devons la suivre. La loi d'amour, la loi de charité, c'est cela qu'il a mis dans nos cœurs. Aimer Dieu, aimer son prochain, tout se ramène à cela. Quelle loi magnifique! Peut-il y avoir une loi plus belle qu'aimer Dieu, aimer son prochain pour Dieu, et tout sera amour dans le ciel, tout sera charité dans le ciel. Cette loi régnera partout. C'est d'ailleurs la loi de Dieu lui-même. Dieu est charité. C'est ce que dit l'Évangile. Dieu est charité. Et c'est cette loi de charité que Dieu a mis dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos consciences. Mais cette loi de charité est très sévère. On ne peut pas s'en écarter. Si on s'écarte de cette loi de charité, on tombe dans la désobéissance, on tombe dans l'opposition à la loi du bon Dieu, on tombe dans l'opposition au ciel et à l'éternité bienheureuse. Et alors, il y a l'enfer. Il n'y a que deux groupes au ciel, il restera deux groupes. Il y a le purgatoire, mais le purgatoire est une voie pour aller au ciel. À la fin du monde, lorsque Dieu aura décidé que le dernier de ses élus est né, le temps sera terminé. Les astres s'arrêteront dans leur course. Les anges viendront, sonneront de la trompette, et les corps ressusciteront. Les corps de ceux qui sont maintenant au ciel, et qui sont hélas aussi en enfer, les corps ressusciteront. Et viendra le jugement général. Jugement général que saint Thomas explique, une lumière particulière sera donnée à chaque âme pour voir à travers les âmes et les corps ressuscités tout ce que les personnes, les hommes auront fait au cours de leur vie et jugeront par le fait même, par rapport à la loi de Dieu, ceux qui sont dans le péché et ceux qui sont dans l'obéissance. Alors, le jugement général. Et alors les anges regrouperont les élus à la droite du Seigneur et les damnés à la gauche du Seigneur. Et notre Seigneur prononcera les paroles qu'il a prononcées dans l'Évangile. Venez, les bénis de mon Père, recevez le royaume que je vous ai préparé. Allez, maudits au feu de l'enfer éternel. Et oui, c'est ça. Voilà l'histoire de l'humanité. Voilà comment se terminera notre histoire. L'histoire à laquelle nous participerons tous, chacun personnellement. Nous sommes tous concernés individuellement. Nous ne pouvons pas nous sauver pour notre voisin. Et ce n'est pas notre voisin qui nous sauvera. Nous, personnellement, nous aurons à répondre de notre vie, de notre âme. Nous sommes donc concernés au plus haut point. Et voilà ce que nous rappelle la résurrection de notre Seigneur. Cette ouverture sur l'éternité bienheureuse. Ah, nous voudrions bien, mes bien chers frères, et je suis sûr que vous êtes tout à fait de mon avis, que nos amis qui nous ont quittés récemment, je pense aussi au bon père Bariel, qui aimait tant vous parler d'ici, de cette chair, avec sa foi, avec un courage et un zèle extraordinaire. Nous voudrions bien que le père Lebouge qui nous a quittés il y a quelques mois seulement, et le bon maître Lové, nous voudrions bien qu'il vienne ici, qu'il vienne à ma place, et qu'il vienne nous dire ce qui se passe là-haut. ce qu'est l'éternité, qu'ils voient maintenant, ils la réalisent. Voudrions bien qu'ils viennent. Mais vous connaissez la parole de notre Seigneur aux riches qui se trouvent en enfer et qui demandent avec supplication à Abraham de bien vouloir envoyer quelqu'un du ciel, que Lazare, qui est au ciel, aille avertir ses frères. Si quelqu'un vient du ciel, ils se convertiront. Et Abraham répond non. S'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes, s'ils n'écoutent pas les prêtres, ils ne se convertiront pas, même si quelqu'un vient du ciel. Alors, il nous reste à accepter la loi du bon Dieu, à imiter ceux qui sont nos modèles, et à imiter particulièrement et à demander l'intercession de notre bonne Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, pour que nous la suivions un jour dans l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.